18h, 19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, chers amis auditeurs, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver. Vous le savez, il est 18h, on est ensemble jusqu'à 19h30 et ensemble, nous allons commenter, analyser, décrypter l'actualité dans une ambiance, évidemment, bon esprit, puisqu'on est vendredi, et vendredi, qui dit vendredi, dit week-end, mais beaucoup bossent d'entre vous. On leur souhaite bon courage. Vous savez quoi, au sommaire, ce que je vous propose ce soir? Eh bien, je vous ai bien concocté quelque chose. Je vous avais dit depuis plusieurs semaines que je voulais lancer le défi de l'auditeur le plus ancien. Ça m'intrigue. Je vous avoue que ça m'intrigue et en même temps, j'ai envie de connaître dans toute la France celles et ceux qui écoutent Beurre FM depuis peu, depuis 5 ans, depuis 1 an, depuis 10 ans, depuis 30 ans, depuis le début. Oui, faisons ce défi entre nous pour voir depuis combien de temps vous écoutez la radio Beurre FM. N'est-ce pas, Anthony ? Bonsoir, Anthony !
Bonsoir Adil, et bah écoute, moi j'attends nos éditeurs avec impatience.
C'est beau ça.
Dans une super ambiance.
Non mais c'est vrai, on a besoin de savoir, nos auditeurs ils nous écoutent depuis combien d'années, combien de mois? Ils sont depuis une semaine, d'autres depuis 20 ans, l'autre il va nous dire un an. Et bien 01 53 48 3000, j'ouvre l'antenne avec vous tout de suite, là maintenant. Anthony vous attend au standard, t'es prêt Anthony?
Ah là je suis on fire comme d'habitude, plus rapide que Lucky Luke comme d'hab.
Il se la pète ce mec, hein. Plus rapide que Lucky Luke. Ouais, bah les amis auditeurs, vous savez quoi? Fermez-lui le bec. Faites péter le standard. Voilà, vous avez raison.
Ça commence.
Voilà. Ça commence. Faites péter le standard, fermez-lui le bec.
Je vais laisser un petit peu
à notre réalisateur, à notre jeune réalisateur Anthony. Allez, c'est parti. Quel est depuis combien de temps vous écoutez Beurre FM? Et vous nous dites pourquoi vous écoutez Beurre FM? Est-ce que c'est pour la musique? Est-ce que c'est pour les infos? Est-ce que c'est pour le divertissement? Pour quelle raison, d'abord, depuis combien de temps? Et puis pour quelle raison vous venez écouter Beurre FM? Qu'est-ce qui fait que vous écoutez Beurre FM plus que d'autres radios, RMC, Skyrock, je sais pas, que sais-je, j'en sais rien, Europe 1, France Inter? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'écouter Beurre FM? Et puis ensuite, après, vous avez écouté les autres radios. Et depuis combien de temps? 01 53 48 3000. 18h30. Donc pendant 30 minutes, je veux qu'on converse ensemble, les amis auditeurs. Il n'y a pas d'invité, c'est vous mes invités aujourd'hui. N'est-ce pas? Ensuite, chers amis auditeurs, 18h30, c'est Michel Taube qui vient nous faire part de son quoi de neuf. Et ensuite, après, du beau monde sur le plateau. Bruno Pomard, ex-membre du Reds, un ancien membre du Reds qui vient sur le plateau, je peux vous dire, ça promet. Il s'appelle Bruno Pomard, c'est un habitué du plateau des Informés. Jimmy Dalidou, notre représentant syndicat. Aïe, 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 notre grande gueule à nous. Il sera là parmi nous. Tu le kiffes, toi, hein, Anthony?
Ah, moi, Jimmy, ah, je l'adore. Ah,
tu le kiffes, hein?
Ouais, je sais. C'est vraiment notre gréviste qui est vraiment remonté contre tout le monde.
Maître David Libeskide.
Alors, les deux, alors là.
Attention, ça va clasher.
Ça va aller fort.
Mais également Philippe Nadjiboyeki, le conseiller régional. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, et Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Les auditeurs ont la parole, c'est parti, jingle.
01 53 48 3000, Les Informés vous donnent la parole.
Faites-moi plaisir, chers amis auditeurs, je voudrais que vous fassiez péter le standard, que je veux vous entendre, nous dire pour quelle raison vous écoutez Beurre FM, pour quelle raison vous venez écouter Beurre FM avant d'une autre radio, mais surtout, depuis combien d'années vous écoutez Beurre FM? Allez, tiens, Aix-en-Provence, Fouzia, bonsoir, ma chère Fouzia.
Bonsoir Adil, vous allez bien?
Moi, je suis chaud avec vous ce soir.
J'aime.
Eh bien, écoutez, allons-y. Comment ça va?
Voilà, ben, ça va très bien, ça va très bien. À part qu'il fait froid, oui. Mais ça va.
Bon,
ça
et va. Caille, hein, ça caille, hein.
Bon.
Ça caille.
J'aurais une question à vous poser.
Dites-moi tout.
J'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous savez la date? Non, pas la date. Où est né Radio Beurre?
Bonne question.
Alors là.
Si, je sais.
Non, vous pouvez pas savoir.
Je peux pas savoir, alors dites-moi alors, si je ne peux pas savoir, dites-moi.
Parce que, allez-y chercher et.
Dites-moi, peut-être que vous savez mieux que moi, hein. Moi je sais pas tout en même temps, hein. Vous savez, j'ai pas la science infuse, hein. Vous allez peut-être m'apprendre des choses, hein.
Radio Beurre est né à Aix-en-Provence.
C'est possible.
C'est pas que c'est possible. C'est que c'est vrai, j'ai même travaillé là-bas.
Ah bon?
Ah oui.
Excellent.
Il y a très 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 longtemps. Ouais, c'est énorme. On était quelques-uns. C'était une super radio, c'était la première radio...
La radio libre, la radio libre.
Voilà, voilà, radio du Maghreb. C'était vraiment quelque chose. On était très, 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 très écoutés.
Y avait la création, c'était quelle année? Attention, c'est parti, compteur.
Dans les années 80.
Non, la création. Je vous donne une seconde chance.
90.
92, vous étiez proche.
Mais il est né à Aix-en-Provence. Hein.
Bon, bah écoutez. Non, mais je vous crois, je vous poserai la question.
Voilà. Super.
Ça fait combien d'années que vous écoutez BFM et pourquoi vous écoutez BFM?
J'ai tout le temps. Depuis que j'étais jeune, je me suis mariée, je l'écoute. Mes enfants, ils l'écoutent.
Ah ouais?
Bientôt à la retraite, je l'écoute. J'adore.
Mais vous avez raison, vous savez quoi? La radio dans les airs, radio, quand elle était radio libre avant qu'elle s'appelle BFM, elle a été créée. Ouais. D'accord. En 1981.
Ah ben vous voyez, je vous ai dit dans les années 80.
Vous avez raison. Vous avez raison, j'ai rien dit, vous avez raison. Bravo.
Ah ouais, Aix-en-Provence.
Bravo.
Bah dis donc Adil,
faut que je revoie l'histoire.
Ah là, plus que l'histoire hein.
C'est ça.
Ouais. Bon, ça fait combien d'années que vous écoutez? Parce que j'ai envie de faire un concours ce soir de celui qui est le plus ancien auditeur. 30 ans?
Ça va faire 30 ans, ouais, ben oui.
Ah ouais, 30 ans. Oui. Et pourquoi vous écoutez BFM? Ouais. Plus qu'une autre radio?
Parce que j'aime, j'adore.
C'est quoi, quand vous venez écouter BFM, c'est quoi qui vous passionne? La musique, les infos?
Tout.
Ah bon?
Tout, les infos, tout m'intéresse.
Tout vous intéresse?
Je suis quelqu'un de... Ah mais vous parlez de tout en fait, il y a tout, il y a la cuisine, il y a l'islam, il y a le sport, il y a le... Voilà, tout y est, tout en heure.
Eh bien.
C'est magnifique. Continuer comme ça. Bon. C'est génial.
Je vois qu'on a une auditrice, conquise.
Mais tout à fait, mais ouais. Tout le monde le dit.
Bon, ouais, Anthony, si tu veux me noter, ça fait 30 ans qu'elle écoute. Hein.
C'est ce que j'ai fait, Adil. 30 ans. J'ai déjà fait le classement.
Voilà, on va faire le classement. Fouzia, merci infiniment d'être intervenue.
Ben, merci à vous, continuez comme ça. Et
attendez, j'ai pas fini. On se donne rendez-vous dans 50 ans encore. Clochette, Inch'Allah, exactement. Je vais aller dire, ils sont Grenoble. Je vous embrasse, Fouzia.
Allez, à bientôt, au revoir.
Ciao. Yvan, bonsoir Yvan.
Salut Adil.
Bonsoir Yvan, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Très bien, merci beaucoup. Alors vous écoutez la radio depuis combien de temps et pour quelle raison?
Moi je t'avais déjà appelé, ça fait 20 ans. Vous m'aviez donné la médaille d'honneur même.
Ah c'est vrai, je me souviens. C'est vrai, vous avez raison, je vous ai donné la médaille d'honneur.
Ouais.
C'est pas faux.
Mais il y en a qui m'ont battu, quoi.
Ouais, bah regardez Fouzi, il y a 30 ans.
Ouais, 30 ans, c'est bien.
Donc ça fait 20 ans, vous. Et pourquoi vous écoutez, BFM plus qu'une autre radio?
Bah, moi, pour tout, là. Bah, j'aime bien Kim.
Ouais.
J'aime bien la musique, surtout.
Oui.
Ah, la musique, ça, il passe trop de la bonne musique, quoi. J'adore. Et après, j'aime bien aussi entendre l'imam.
Ouais, l'imam Mamoun.
C'est l'imam Mamoun. Et même le dimanche, le Hadj Boukram.
Ah oui, je vois très bien.
Bah, je l'aime bien, j'aime bien lui.
Eh bien,
après,
ça
fait... Philippe Robuchon, j'aime bien. Je les aime tous, quoi. Tous. Ils sont vraiment...
Bah écoutez, merci Yvan.
Ouais. C'est une radio qui parle de tout. C'est vraiment meilleur que d'autres radios, quoi.
Bah écoutez, j'espère, ouais. Yvan. Merci pour votre appel, Yvan. Ça fait 20 ans, Anthony. On note 20 ans pour Yvan.
C'est noté déjà.
Voilà. Merci, ouais, Yvan.
J'espère que ça va continuer encore plus à bien longtemps. Hein.
Rien lâché. Vive la vie, mon cher Yvan. C'est surtout ça.
Merci, Adil.
Allez, prenez soin de vous. Merci beaucoup, mon cher Yvan.
Au revoir.
Fares qui nous appelle de Villiers-le-Bel. Bonsoir, Fares.
Bonsoir, salam alaikum Adil.
Alaikum salam, comment ça va mon cher Fares?
Alhamdulillah, ça va.
Bon, alors, la radio, elle vous a piqué depuis combien d'années?
Moi, ça fait depuis 2007, Adil.
2007, Anthony, 2007. 2007.
Je suis arrivé en France en 2003, j'ai découvert BFM en 2007.
Ouais, 2007, ça fait quoi 2007? Ouais, 2007, ça fait du... Ah oui, c'est déjà... Ah oui, ça fait pas mal. Hein. Ça fait un peu moins.
Ça fait presque 16 ans.
Non, 16 ans, ça fait 16 ans, 16 ans.
Exactement.
Si on inclut 2023, ça fait 16 ans. Si on inclut pas 2023, ça fait 15 ans.
Depuis que j'ai découvert BFM, Adil, ni j'écoute d'autres radios, ni c'est
BFM. Ah, ça y est, vous avez été vraiment piqué, vous. Hein. Vous avez reçu la piqûre. Le tampon.
L'application Beurre FM sur le téléphone, sur le chantier, on fait le Beurre FM et on bosse à l'air et on avance.
C'est bien, c'est génial ça. Ça fait plaisir. Ah oui, c'est radio, que ça fait plaisir ce que vous dites.
Complète,
hein.
C'est une radio complète avec tous les programmes et,
ouais.
Et par rapport déjà, par la, c'est la seule radio quand c'est le ramadan qui nous accompagne par les programmes spécial ramadan, ouais. Tout ça, franchement, c'est.
Vous savez que, c'est que la période du ramadan, c'est la période qui fait vraiment, vraiment grandir les audiences. C'est là où on a le plus d'audience.
On se sent un peu comme le bled, au moins on sent un peu le ramadan ici.
Ouais.
En France, déjà, on n'a pas le. Il n'y a pas le charme comme le bled, le ramadan. Avec le ramadan, ça va, ça le.
Ça rajoute une ambiance.
Exactement.
Eh bien, merci Fares, hein, et ne lâchez rien. Hein.
Ah non, on est toujours fidèles. Nous, c'est des vrais fidèles. C'est pas comme les autres radios. Ils donnent de l'argent pour avoir des fidèles. Nous, c'est des
fidèles. Je suis pas sûr qu'ils donnent de l'argent, mais bon, en tout cas, voilà. Merci Fares.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Yacine, qui nous appelle de Nîmes. La classe, Yacine, de Nîmes. Bonsoir.
Bonsoir, Père Hassan. Je crois que vous allez bien.
Ça va bien, et vous?
C'est nickel.
Alors vous avez été absorbé par la radio depuis combien d'années maintenant?
Depuis 2017.
Comme Fares. Ouais. Ça fait 15 ans, 16 ans.
Et encore, il faut savoir qu'à l'époque, on captait mal Beurre FM chez nous.
Ouais, maintenant, ouais, attends, vous savez que maintenant, on peut la capter en numérique, en DAB+, ça veut dire la radio numérique maintenant. Tous ceux et celles qui sont équipés d'une voiture ou qui ont le DAB, et ben partout où ils vont dans la France, ils ont le numérique avec Beurre FM, partout. Ça veut dire qu'elle ne bouge plus.
Les années, on fait ça, on capte mieux, on entend mieux.
Ouais. Bah, Anime, normalement, vous êtes sur le 104.6.
104.6, en fait, c'est l'antenne est plus dirigée vers, je sais pas si vous connaissez Alès.
Alès, oui, bien sûr, Alès, oui.
Alès, on capte très bien. Et vers moi, où j'habite exactement à Uzès, là où il y a l'usine d'Aribo.
Je vois très bien où c'est. Et c'est que quelques reprises, 2-3 reprises.
Bon humain, les arrêts et tout.
Et pourquoi vous écoutez Beurre FM? Pour quelle raison? La musique, c'est pourquoi? C'est pour
la musique, les débats.
Ouais, les débats.
Très intéressant, mais surtout la musique au départ. Ça a commencé par la musique parce que bon, on n'avait pas forcément de radio en fait qui était consacrée à nous, les immigrés en fait qui venaient d'arriver ou quoi, pour la musique orientale, maghrébine, tout ça. Donc, ça fait vraiment plaisir, ça nous représente et c'est bien pour nous aussi.
Bien sûr, vous avez raison. C'est vrai.
Et après les débats, etc. C'est nickel, c'est parfait. C'est une radio en fait assez complexe, je trouve.
Eh bien, on essaye d'être complet. C'est vrai que la radio, elle essaye d'être au mieux proche de ses auditeurs, c'est-à-dire complète, avec évidemment toute sa diversité. Merci Yacine de Nîmes.
Pas de problème, bonne soirée à vous.
Et ne lâchez rien, Yacine. Continuez de faire vivre la radio. Mahmoud de Honnay 93, bonsoir Mahmoud.
Bonsoir Adil. Comment ça va
Mahmoud?
C'est pas Mahmoud, c'est Mahfoud.
Mahfoud. Bon, c'est Anthony qui a mal noté. Mais bon, ça lui arrive, c'est pas grave.
C'est pas méchant, c'est les aléas du direct.
Bon, vous écoute alors. Vous êtes un fidèle auditeur depuis combien d'années maintenant?
Moi, ça fait depuis, honnêtement, depuis 2008.
2008, donc.
2008, c'est-à-dire que j'écoute vraiment.
Ça fait 14 ans.
J'attendais Beurre FM de temps en temps, mais on va dire 2008, j'ai commencé à écouter Beurre FM, à intervenir de temps à autre. Sur même vos émissions à vous, celle aussi carte d'identité, carte de séjour de Yassine Melata, aussi sur les émissions sportives, j'aime bien écouter Hamidou Mamadou de Grenoble qui intervient.
Il
a été des discours justes,
c'est vrai.
Après il y a d'autres qui interviennent.
Vous savez que Mamadou fait partie des plus anciens auditeurs. Moi je me souviens,
effectivement,
il y a quelques années il était là, je me souviens de lui encore, hein, de Grenoble.
C'est ça, j'intervenais avec lui des fois sur la carte d'identité, carte de séjour.
C'est incroyable.
Et, bon, on ne peut pas intervenir tout le temps, parce que je sois en train de conduire ou autre chose, il faut laisser les autres aussi intervenir. Et c'est le charme de la radio. Maintenant, pourquoi j'écoute Beurre FM? J'écoute pas que Beurre FM aussi. Hein. J'écoute Rire et Chanson à 8h30. Je passe toujours sur les chansons pour écouter les sketchs de Rire et Chanson à 8h30. J'écoute Beurre FM, j'écoute vos émissions à vous aussi. Je vais intervenir dans les vôtres aussi. Parce que c'est pas une chaîne locale ou une chaîne, comment dirais-je, c'est une chaîne plus populaire pour tout le monde. Et tout le monde
c'est
peut
vrai,
intervenir.
C'est vrai, donner vous avez raison.
Le standard est gratuit, à l'inverse d'autres radios qui, c'est payant, mais aussi qui demandent des fois des choses qui ne sont pas justes aux auditeurs et qui poussent les auditeurs à aller dans leur sens à eux et non l'inverse.
Et ben,
alors que le but d'un auditeur, c'est de s'exprimer, de donner son avis.
Eh ben, on va lancer la pub. Merci de votre fidélité. Merci. Sachez-le, je vous le dis. Vraiment, et restez fidèles encore.
Oh, vous inquiétez pas. Je vous entendrai tous les jours.
Mais écoutez, merci à vous. 18h15, on lance la pub et on se retrouve tout de suite après avec Cara, qui nous appelle de Montpellier. 01 53 48 3000. Ce soir, je veux savoir évidemment de qui, quelle est la longévité, celui qui écoute le plus longtemps la radio. Depuis combien de temps vous écoutez la radio et les raisons pour lesquelles vous écoutez principalement Beurre FM. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant.
Il est 18h23 précisément, chers amis auditeurs. C'est parti pour le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, vous le savez, c'est avec le grand Pascal Boniface, celui qui est le directeur fondateur de l'IRIS. Bonsoir, mon cher Pascal Boniface.
Bonsoir, Adil.
Comment ça va?
Ben, ça va très bien, comme un vendredi soir finalement.
Comme un vendredi soir, effectivement, exceptionnellement, puisque vous intervenez tous les jeudis, a priori, donc à 18h30, exceptionnellement ce soir à 18h20, et vous parlez de Jénine. On vous écoute.
Oui, effectivement, Jénine, ou un raid de l'armée israélienne, a fait 10 morts, et depuis le début de l'année, l'armée israélienne a tué 26 Palestiniens, donc c'est un par jour. C'est, voilà, l'an dernier, il y a eu 152 Palestiniens qui ont été tués par différentes actions de l'armée israélienne, toujours bien sûr au nom de la lutte contre le terrorisme, et aucun des militaires qui étaient concernés n'a été inquiété. C'est évidemment en toute impunité, toujours au nom de la lutte contre le terrorisme. Alors, on sait qu'en Iran, il y a eu 500 civils qui ont été tués par les forces dites de sécurité du régime iranien. Ça suscite beaucoup de protestations, ça en suscite beaucoup moins. Alors, certes, ils sont moins nombreux, mais on voit là quand même qu'il y a un peu du deux poids deux mesures. Et puis, alors, bien sûr, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, va venir. Mmh. Il y a beaucoup d'inquiétudes, mais peu d'actions. Il y a de l'inquiétude puisqu'il y a un nouveau gouvernement israélien où l'extrême droite est très présente. Le ministre même de la Sécurité, Ben Gvir, quelqu'un d'extrême droite, qui avait souhaité la mort de Rabin, rien que moins de cela. Il y a bien sûr la crainte que ce gouvernement, nouveau gouvernement, fasse encore plus de provocations, même si on peut dire quand même que le bilan est d'ores et déjà assez lourd, et qu'il soit de plus en plus difficile finalement de faire ce que l'on fait depuis longtemps, c'est de se voiler la face, de se cacher derrière des arguments de lutte contre le terrorisme, on ne peut rien faire, etc. Parce que là, il y a quand même une inquiétude que ce nouveau gouvernement fasse des provocations encore plus importantes que celles que l'on connaît. Et donc, il y a des protestations, mais qui sont toujours verbales, mineures. Il y a, regardez quand même la différence d'émotion par rapport à ce qui se passe dans d'autres coins où la guerre fait rage. Et donc on voit bien quand même que cela, eh bien, est de plus en plus dangereux, parce que finalement, à laisser le gouvernement israélien faire ce qu'il veut sans qu'il y ait, non pas même de sanctions, mais simplement des pressions, eh bien on peut prévoir le pire. Et ça gêne qui? Bah, ça gêne finalement les gouvernements arabes qui ont fait la paix avec Israël, parce qu'ils sont de plus en plus gênés, les diplomaties occidentales dont l'inaction par rapport au conflit israélo-palestinien est de plus en plus évidente, alors qu'il y a une dégradation qui est elle aussi de plus en plus évidente de la situation. Et donc voilà, eh bien, on fait semblant de s'être concerné alors que l'on émet uniquement des mises en garde, on dit son inquiétude, etc. Et on ne fait rien, et il y a une bombe à retardement qui existe dans cette région.
Un grand merci pour ce billet d'humeur dans le Quoi de Neuf. Pascal Boniface, je le rappelle, le fondateur, directeur de l'IRIS. À la semaine prochaine, ce sera jeudi à 18h30 précisément, oui, mon cher Pascal Boniface.
Tout à fait, cette fois-ci.
Et merci, là, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous.
Eh bien, bon week-end à toi et bon week-end à tous les auditeurs de Beurre FM.
Merci, mon cher Pascal Boniface. Il est 18h25, je disais, je lançais le défi à chacun de nos auditeurs, de celui des celles qui écoutent le plus longtemps Beurre FM, c'est-à-dire depuis combien d'années, mais surtout pour quelles les raisons pour lesquelles. Vous êtes très très nombreux à nous appeler, justement, de Montpellier, en passant par Nîmes, en passant par Marseille, Aix, et bref, ça, dans toute la France. J'ai une surprise pour vous, chers amis, parce que je veux bien qu'on ouvre, Anthony, le micro de Bruno Pomard, l'ancien membre du Reds. Le ouais, boss. Comment ça va, Bruno Pomard?
Très, très, très bien. Il y a du lourd aujourd'hui sur le plateau, là, mais je crois.
Alors, attendez, on va pas balancer le nom. Attendez. Il y a du lourd. Le lourd, c'est qui? Il est scénariste.
Ouais.
Il est acteur.
Ouais.
Il est réalisateur.
Ouais.
Et franchement, il nous fait plaisir et l'honneur d'être.
Et c'est un mec qui a un grand cœur. Je sais qu'il suit toutes mes opérations.
Il a, c'est pas un grand cœur.
Ouais.
C'est, mais vraiment.
On n'est pas toujours d'accord, par contre.
Ouais, mais bon, ça, c'est la vie. Ça fait partie de la vie. Allô, bonsoir!
Bonsoir, Beurre FM, bonsoir.
Ah, Bibi Nasseri.
Eh ouais.
Bibi Nasseri. Il est là. Vous savez, vous faites plaisir, vous faites chaud au cœur à Bruno Pomard qui vous attendait ce soir.
Eh oui.
Non, mais Bruno Pomard, c'est mon frère ennemi.
Alors, il paraît que vous êtes plein tournage et que, avec votre frère, justement, Samy Nasseri, que vous nous préparez, vous nous concoctez un film dont on va parler, justement.
En fait, on prépare un film, on vient de finir un film, ouais, qui est en post-production, qui s'appelle L'épée de Damoclès.
Excellent.
Et on prépare un film qui est la suite de La Mentale.
La suite de La Mentale, ah ouais, ça c'est bon, ouais, ça.
C'était un bon film.
Ah là, je vous applaudis.
Ah ouais, c'est un très bon film.
Un excellent film. Bravo Bibi Nasseri, bravo. Ouais.
Voilà, mais on s'aperçoit quand on fait La Mentale, c'est un peu le sujet qui nous rejoint et qui nous oppose, Bruno et moi, c'est que la jeunesse délinquante, puisque c'est un film de gangster, donc c'est des délinquants, ouais, la jeunesse délinquante d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la jeunesse délinquante d'hier.
Ouais, c'est vrai.
Aujourd'hui,
vous êtes d'accord, Bruno Pomard?
Ah oui, non, mais il a raison, ça a totalement changé, mais bon, je me doute de la qualité de ce qu'il va faire avec.
Bon, vous nous invitez à l'avant-première, ouais. C'est quand l'avant-première, mon cher Bibi Nasseri?
Bah, l'avant-première, faudrait détourner le film, on vient juste de finir le scénario et on vient juste de signer. Je m'avance même peut-être, on était en train de discuter de signer les contrats pour avoir les sous.
Bon, eh ben écoutez, on vous souhaite bon courage, plein de bonnes choses.
Ouais,
une autre actualité que vous avez, Bibi Nasseri?
Ouais, enfin en ce moment, je suis plus dans l'écriture que dans le jeu.
Ah, scénariste, ouais.
Voilà, et j'essaye d'écrire j'ai pas trop le temps, mais j'essaye d'écrire un roman dans la veine de tout ce que j'écris, les romans policiers que j'ai écrits avant.
Vous l'avez vu dans Banlieue 13, Bibi?
Ouais, ouais.
Banlieue 13, je trouve que c'est dommage que personne n'ait eu l'idée de faire une suite.
Une suite, ouais. Il a raison.
Pas la suite qu'ils ont fait, Ultimatum, mais une autre suite, à Banlieue 13, parce que partout où je suis allé en Espagne, en Turquie, en Russie, c'est pas bien de le dire en ce moment, en Russie.
Quelle star, Bibi Nasseri, ouais. Quelle star.
Il est copain de Poutine, Poutine.
Tout le monde a vu Banlieue 13, tout le monde l'a vu.
Tout le monde l'a vu.
Un jour, même une anecdote, c'est qu'un jour j'étais au Bois de Vincennes en train de faire mon sport.
Tiens, c'est bizarre.
Il y avait des juifs orthodoxes.
Vous avez entendu, Bibi Nasseri? Bruno Pomard qui vous dit c'est bizarre ça, le Bois de Vincennes. Il est fou ce monsieur.
Non, je fais du sport pour. Je fais du sport que des fois, que lui me court après pour pas qu'il me rattrape.
Ah, il est
et il y avait des juifs orthodoxes, des Lubavitch qui me regardaient. Et je dis, putain, ils ont peut-être peur de quelque chose et tout. Alors, ouais. Je vais les voir en anglais. Je leur dis, bonjour, je vois que vous me regardez. Et il me dit, en anglais, il me dit, mais vous êtes le gars qui joue dans Banlieue 13.
Excellent. C'est bon ça.
C'est vrai, c'est un film.
C'est vrai. C'est une belle anecdote,
j'ai
ça.
J'ai fait des photos et c'est dommage. J'ai pu regarder les photos parce que c'était extraordinaire. Excellent. C'était des photos avec des juifs orthodoxes un peu habillés comme Rabbi Jacob avec des
ah, oui. Ah c'est bon.
C'était génial et ils ont tenu par le cou.
Excellent ça, excellent. Excellent.
C'était génial, voilà. Ah, le film a fait le tour du monde.
Là, mais le film, je vois de ce que vous nous racontez. Alors, quand est-ce que vous venez débattre avec nous et justement, parce
écoutez,
que Bruno Pomard, il attend que ça, Bruno Pomard. Hein.
Bah, c'est Jimmy qui est remplacé ce soir.
Mais, hein? Oui. J'ai plein de sujets à débattre avec Bruno. Bah, mais Bruno, on a passé des soirées, des journées ensemble, parce qu'on était sur le même projet dans le City Red, tout au début ensemble. On a passé des soirées et des
restos à faire des actions,
tous les deux. À s'engueuler, en fait, on était d'accord, mais à un moment donné, c'était sur des détails qu'on n'était pas d'accord.
Bon, on vous attend sur le plateau des informés sur BFM, justement pour débattre avec Bruno Pomard, entre autres. Hein. On compte sur vous, Bibi Nasseri?
Bah, je serai là, je viendrai avec plaisir. Avec
franchement, plaisir partagé, on vous embrasse.
Bien avec plaisir, j'en ai bien avec plaisir de casser la gueule à ce Bruno Pomard.
excellent.
Salut.
Allez, et on vous embrasse, à bientôt.
Moi aussi, je vous embrasse tous, à bientôt.
À bientôt et bon vent, évidemment, pour le tournage, pour l'écriture, scénariste, Bibi Nasseri.
On avance, c'est très dur, mais ça va, on continue, on a tout ça.
Et vous saluerez aussi votre frère, Samy, également.
Oui, Samy,
absolument.
Ouais. Bah écoute, je le vois régulièrement parce qu'on est. J'ai écrit deux scénarios pour lui qu'il est en train d'essayer de monter. Alors donc je le vois régulièrement.
Bon bah vous l'embrassez, vous le dites, il vient quand il veut aussi. Hein.
Ouais bah écoutez, je lui dirai. Bon. Il viendra avec plaisir.
À bientôt Bibi Nasseri.
À bientôt, je vous embrasse tous.
18h, on vous embrasse. 18h31 précisément. Oh là là, avec une minute de retard, le Quoi de Neuf, c'est parti.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
On a eu notre minute people. Hein. Désolé Michel Taubin.
Ah bah écoutez, qu'est-ce que je suis content d'avoir entendu une star du cinéma français.
Ah bah je peux vous le dire, et vous savez ce qu'il prépare là, vous avez entendu ce qu'il prépare? C'est alors, du non, très très non. lourd. Ouais, dites-lui Bruno Pomar ce qu'il est en train de préparer.
Avec son frère,
Ah si, je sais, il va casser la gueule à Bruno Pomar.
Merci Michel. Ouais, ça va être compliqué, un ancien membre du Red, ça risque d'être compliqué, je vous le dis moi. Exactement. Surtout que Bruno Poma a conservé, vous savez, son aspect sportif. Hein.
Ouais, l'aspect, peut-être pas de la totalité, mais c'est vrai.
Si, je dois dire, vous êtes resté costaud. C'est vrai. Bien là, c'est vrai, c'est vrai.
Salut Michel.
Michel Taube.
Salut Bruno.
Bruno Pomar vous salue, vous êtes le patron de fondateur d'Opinion Internationale et vous allez nous parler de la guerre en Ukraine. On vous écoute.
Alors en fait, on n'en a pas parlé depuis quelques semaines, en tout cas dans mes prises de parole sur Beurre FM. D'abord, bonjour aux auditeurs de Beurre FM, je tiens à leur dire bonjour, ou bonsoir. En fait, c'est pour dire que puisqu'on est encore en janvier, c'est encore l'année des vœux et de réfléchir un peu à ce qui va se passer en 2023, je pense que la guerre en Ukraine est loin d'être terminée. Elle est loin d'être terminée. Il s'est passé cette semaine une chose très importante, c'est que l'Allemagne, après plusieurs jours et semaines de réticence, a décidé de donner des chars Léopard, qui sont des chars, les chars les plus efficaces au monde, les plus rapides, les plus mobiles, à l'armée ukrainienne, suivis par des Britanniques, par des Belges, par des Américains qui vont donner des chars Abrams. Et là, on passe effectivement dans une autre dimension de la guerre, sachant qu'en face, la Russie est extrêmement mobilisée. Contrairement à ce qu'on voudrait faire croire souvent, malheureusement, dans les médias, Vladimir Poutine, il est très, très, très déterminé à gagner cette guerre. Et lui, plus que nous, les Occidentaux, il a du temps devant lui. Il a du temps. Il a des munitions à n'en plus finir. Il a, comme dans la stratégie russe, il a l'habitude, les Russes ont l'habitude de prendre le temps de subir des dizaines, des centaines de milliers de morts et de se redresser derrière. Donc je pense qu'il faut être conscient que cette guerre, elle est partie pour durer. Je pense que c'est un bras de fer qui nécessairement va entraîner une implication de plus en plus importante des différents protagonistes et que certains disent que c'est le début d'une troisième guerre mondiale. Ça, je ne le pense pas. Mais en revanche, ce que je pense, c'est que l'implication des Occidentaux dans la livraison de chars d'assaut pour l'armée ukrainienne va certainement amener à un durcissement du conflit. Je terminerai en disant que moi, en tant qu'éditeur à la tête du journal Opinion Internationale, je suis clairement du côté des Ukrainiens. Je suis pour qu'on les soutienne, je suis pour que... C'est leur cause, c'est notre cause. Mais il faut en même temps être lucide et ne pas mentir à nos concitoyens. C'est une guerre longue dans laquelle nous nous installons et qui malheureusement risque d'aller au-delà de l'année 2023.
Excellent billet, merci à vous. Bravo Michel Taube, bravo, bravo. Et puis on invite les auditeurs à aller découvrir votre média en ligne Opinion Internationale avec notamment une interview exclusive que vous avez menée il y a quelques semaines avec le président Sassou Nguesso du Congo Brazzaville. Absolument.
Le président du Congo et que j'ai publié hier. Donc
très intéressante, que j'ai lu d'ailleurs, bravo. Très intéressante, belle interview.
Il fait de bons papiers merci dans l'opinion.
Oui, il fait de bons papiers.
Ouais, franchement, ouais, c'est très intéressant.
Ouais.
Bonne soirée à vous.
Merci Michel Taube, et au plaisir. On lance la pub et on se retrouve tout de suite après avec le face-à-face.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Allez, c'est parti. Vous savez quoi pour le show actu? 18h41, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Quatre personnalités, quatre voix, quatre influenceurs, quatre débatteurs, quatre hommes. J'ai droit à une clochette.
Ouais. Ah là là.
Ah ouais là.
Qui vous dit que je suis un homme, monsieur?
C'est vrai. Non mais je vais me faire taper parce que.
C'est vrai.
Il faut que les voix féminines se fassent entendre aussi, y compris sur nos ondes. Non mais elles viennent, mais
elles sont pas suffisamment.
Je vous promets que je m'efforcerai. Vous savez quoi? De maintenir l'équité. Parce que j'y tiens en plus, j'y tiens. Philippe Nadjibouriaki, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
Comment ça va bien?
Écoute, ça va très très bien.
Bon, tout va bien, conseiller régional, plus que jamais.
Toujours conseiller régional jusqu'en 2028.
De Europe, centre, je sais pas
non,
quoi.
L'écologie au centre.
Je sais plus.
La région qui a fait une belle dédicace hier aux forces de l'ordre. Je suis très content.
À nos gardiens.
Très très belle.
Magnifique.
Europe au centre.
Non, l'écologie au centre.
Ah, l'écologie au centre.
Le seul vrai parti écologiste, c'est le premier parti écologiste de France, puisque...
Ça m'étonnerait.
Ouais, c'est ça.
Si, je te prends le pari.
Ça existe, hein.
Ouais.
ELV, c'est
un satellite de la NUPES. Comme ça, là, tous comme ça.
Des bonbons qu'on nous a offert.
Ah, c'est des bonbons.
Milan Nedroma est venu.
Il vous a gavé de bonbons. Ouais. À vos côtés, un ancien membre du RAID, le fondateur de la fondation RAID Aventure, chroniqueur télé notamment aussi. Il est avec nous, Bruno Pomard, bonsoir.
Salut Adil, et puis salut à tous nos auditeurs, quoi, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, paraît-il. Oui, oui. Écoute, tu sais que.
Mais ils sont grave nombreux,
très content. J'ai fait 3 heures de radio ce matin à RMC, je suis très content d'être ici, tu le sais. C'est pour ça que je viens.
C'est vrai.
Tu m'invites, évidemment.
Non, c'est vrai. Vous savez quoi, j'ai pas besoin de vous inviter. Hein.
Je sais.
Vous êtes chez vous. Il n'y a pas de problème.
C'est gentil.
Il est avocat, il est aussi l'avocat des Gilets jaunes, il est aussi, attention, humaniste. C'est aussi ça, c'est important. Ouais. C'est Maître David Libeskind. Bonsoir.
Bonsoir.
Ouais, toujours même siège. Vous savez qu'il toujours, il bouge pas. Hein.
À gauche.
Non mais attendez, j'ai halluciné. C'est l'un des débatteurs, le seul peut-être. Il est toujours le même siège, le truc réglé comme ça, vous savez, de cette manière.
Positionné à gauche toujours.
Toujours positionné à gauche.
Ça dépend de qui.
Bah c'est un homme de gauche.
Non mais c'est très bien. En fait, je suis comme les animaux.
Il va virer Jimmy Dalido qui est trop collé à lui.
Et le pire, c'est que Jimmy tout à l'heure s'est posé, il l'a viré.
Viré, je te l'ai dit.
Va là-bas.
Elle était pas là.
J'étais pas viré. Hein.
Non, notre représentant, notre grande gueule, représentant CGT, auteur, révolutionnaire, il fait parler de lui. Jimmy Dalido, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Comment ça va ?
Ça va.
Il donne même le ton, il est sec. Hein. Bonsoir à tous, ça va bien.
Monsieur Farkan, je suis navré, mais parce que moi je suis maire sans étiquette, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de gauche ce soir sur le plateau.
Non, regardez.
Non.
Regardez, on est ensemble là.
J'ai jamais été à gauche, moi.
Là, on a un camp contre l'autre camp.
T'as vu le conseiller régional, comment on le fait réagir?
Allez, justement, vous savez quoi? Il y a Fabien Roussel qui a lancé un appel au maire de France, justement, la fermeture solidaire. Il rejoint l'appel de faire fermer donc les mairies. Sauf que le ministre, il y a plusieurs ministres, le ministre et d'autres aussi du gouvernement. De l'exécutif qui, eux, regrettent évidemment de vouloir évidemment prendre en otage un certain nombre de choses. Comment peut-on réagir? Est-ce que c'est responsable, notamment quand Hidalgo elle-même a dit rejoindre l'appel de Roussel à fermer les mairies? Est-ce responsable, Bruno Pomard? On en parle.
Totalement irresponsable. Moi, je suis maire, hein, dans mon petit village, certes, j'ai que
ça fait rire, maître
deux personnes qui travaillent pour mon petit village, mais jamais je me permettais un tank.
Vous êtes maire, vous?
Oui, je suis maire d'un petit village.
Alors, vous allez fermer?
J'ai une secrétaire à mi-temps et un gars qui s'occupe des espaces verts de notre petit village.
Vous fermer.
Mais c'est un scandale. On ne fait pas de la politique quand on a un positionnement de maire, quelle que soit la couleur politique, de cette façon. Ça ne se fait pas. Mmh. C'est les services publics. Les services publics doivent être à la disposition 24 heures sur 24 de la population, qu'ils soient pour ou contre la retraite, puisque c'est dans ce sens qu'elle a fait ça. Je trouve ça scandaleux. Il y a un autre maire qui a fait ça. Je trouve ça tout simplement scandaleux.
Ils disent vouloir fermer symboliquement les mairies le 31 janvier par solidarité avec la mobilisation contre la réforme des retraites. Je réponds à son appel des mairies solidaires affirmées, donc Madame Anne Hidalgo. Franchement, bon, bah, je laisse le son aussi aux auditeurs, hein, je vous sollicite, 01 53 48 3000, est-ce que vous trouvez cela responsable? Philippe Nadjibour, on va les entendre. Philippe Nadjibour, il y a qui
veut. Par rapport à ça, si, je vais répondre.
Oui, Philippe Nadjibour.
C'est une décision politique qu'on peut saluer lorsque il sort ses deniers, là on parle d'argent public. Après, ça enlève le charme du droit de grève. Parce que du coup, tu obliges les gens à être entre guillemets grévistes et surtout d'être payés. C'est ça qui est scandaleux. La grève, c'est une bataille, c'est une lutte. Tu perds des plumes pour gagner plus et des revendications qui sont légitimes. Moi, j'ai défendu les machinistes receveurs aux assises des transports en commun la semaine dernière parce qu'ils étaient gravement oubliés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec l'argent public, tu permets de donner une force supplémentaire à des gens qui ne sont peut-être pas dans cette dynamique. Et puis paye de ta poche Fabien Roussel. Et à ce moment-là, comme il y a des organisations syndicales en place CFDT, il faut savoir qu'elle a mis depuis longtemps une caisse de grève, en vérité. Donc tout le monde, lorsque vous cotisez, vous abondez dans cette caisse de grève. Et le jour où il y a une grosse grève, c'est cette caisse de grève qui vient vous financer vos jours de grève. Donc en fait, bon, les types ne le sentent pas. Mais ça se discute. Alors qu'à la CGT, par exemple, il y a une caisse de grève qui est créée après et on sollicite la solidarité des uns et des autres. Moi, je préfère plus la méthode de la CGT qui est un combat direct et les types ils perdent des sous, mais ils vont au front, ils obtiennent ou ils obtiennent pas, mais en tout cas c'est ça la grève, c'est ça le combat salarial.
Ah bah, le combat, il y en a un autre aussi qui est prêt au combat, il enlève sa veste là, il est prêt là.
Non mais c'est un combat.
Jimmy Dalidou,
il perd pas
le pire de Jimmy.
Non mais justement je veux qu'on débatte parce que là c'est quand même important. Quand on lance symboliquement de vouloir faire fermer les par solidarité les mairies, ça m'inquiète. Mais bon, c'est pour ça que je veux qu'on en parle.
Vous savez, bon, deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement les luttes légitimes, il y a d'un côté la lutte légitime du peuple travailleur qui prend différentes formes, forme de la grève ou forme d'action, quelles que soient les formes que ça prend. Et malheureusement, souvent ces luttes légitimes des travailleurs sont récupérées par des politiciens véreux, corrompus, opportunistes.
Oh là là là, clochette. On le voyait arriver.
Roussel m'inquiète parce que cet homme-là se dit. Comme son parti, le Parti communiste français, se disent communistes alors qu'ils sont plus communistes depuis belle lurette. On va partir
sur tout le monde
historique avec un parti communiste qui était parti mutant et qui est devenu un parti de type social-démocrate totalement intégré au système capitaliste.
Oula, c'est la première chose.
Et la deuxième chose, c'est ce même parti qui, depuis des décennies, depuis sa finalisation, depuis qu'il a été finalisé comme outil social-démocrate collaborateur du capital, après Monsieur Georges Marchais. Maintenant, il se dit défenseur.
Ah mais non, mais là, c'est pas des clochettes qu'il faut lancer là. Non, mais là, ça Jimmy Dalidou, vous êtes arrivé.
Il est remonté. C'est ce qu'on appelle une manœuvre politique. C'est une position opportuniste. Alors, il dit, on va fermer les mairies par solidarité. Alors, solidarité de classe, effectivement, pour les travailleurs des mairies, les travailleurs dans les mairies, effectivement, la grève, elle est légitime. Il faut qu'elle ait lieu. Elle est constitutionnelle.
Mais avec
elle a été par la lutte des classes. Mais il faut pas mélanger les travailleurs dans les mairies, parce que souvent les travailleurs dans les mairies, eh ben, ils sont en galère aussi. Que ce soit la
réception, ils sont grave en galère.
Que ce soit les femmes de ménage dans les mairies, ils galèrent. Et il faut pas mélanger la lutte légitime des travailleurs dans les mairies et cette récupération politique. Le PSF, ça fait belle lurette. S'ils étaient véritablement les défenseurs des travailleurs, pourquoi ils ont renié.
Je vais appeler un communiste, un militant communiste, vous allez voir.
Il est loin, Jean-Jean Marché.
Non, mais notamment
Marcher
la défense
loin,
de la classe ouvrière et des couches populaires qui forment, n'oublions pas, la majorité du peuple en France.
N'oublions pas
Maître David Lemesquide.
La privatisation.
Je voudrais faire tourner la parole. Alors, cette histoire de fermeture.
Et je reviendrai sur un troisième élément pour revenir par rapport à ce que
c'est
disait.
C'est pas un meeting, Dimitri Delidon. On n'est pas au meeting, là.
Non, mais attendez.
Dimitri Delidon, il s'est créé en plein meeting. Chers amis auditeurs, premier point.
Camarade auditeur, vous avez raison.
Deuxième élément. Troisième élément, la révolution.
Non,
mais Dimitri Delidon, vous êtes aux informés, là.
David Asseloff.
Non mais c'est ça exactement, Maître David Libeski. Tiens, écoutons maître.
Tu vas pas chanter l'international hein, sur moi.
À la fin de l'émission.
Alors on va Fabien Roussel. Mais là je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Il est loin d'être communiste. Enfin le parti communiste n'est plus communiste. Je parle au sens social du début des années 80. Après Fabien Roussel, bon c'est aussi quelqu'un qui a appelé à rejoindre une manifestation police à l'Assemblée nationale. Je sais pas si tu te souviens, Bruno.
Il soutient.
Les policiers, surtout les revendications qui avaient été indiquées. On m'entend ou pas ?
Oui, non mais ça, je balaye le niveau, il a baissé, il est remonté. Sujet, bon,
Roussel, sur
bon.
La
qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors j'en viens maintenant à l'appel qu'il a fait. Alors moi je suis complètement solidaire avec cet appel, sachant qu'il faut quand même apporter certaines précisions. Je ne suis pas certain de mémoire qu'il ait appelé à une fermeture des mairies toute la journée. Je crois que c'est 2-3 heures.
Voilà, oui, il y a certains services qui sont ouverts,
voilà,
l'état civil.
À la mairie de Paris, il y a le service d'état civil qui sont ouverts. Mais après, tant mieux, parce que comme ça va permettre aux employés des mairies, en fait, de faire grève tout en étant payés. Puisque,
non, mais c'est le principe.
Attendez, Bruno Pomard vous répond. Attendez. Ils vont répondre, comme ça fait un tac au tac, c'est intéressant.
Cher maître, c'est juste la méthode qui me gêne.
Après, non, mais j'en reviens.
C'est vrai que la méthode, elle pose problème quand même.
En quoi la méthode pose problème?
Mais parce que elle est maire, je pense que.
Il est maire.
Ouais, moi, je ne verrais pas mes deux employés leur dire, on est contre le gouvernement, contre la retraite, donc. Vous allez, vous pouvez arrêter de travailler aujourd'hui.
Oui, alors après, je suis d'accord avec toi. Il y a la récupération politique. Après, la méthode me choque pas sur la forme.
Non, bon, pas d'argent public.
Après, alors, ça, en plus, je comprends que ça peut heurter les gens.
C'est Philippe Nadiboré qui dit ça.
Voilà, c'est des maires qui essaient de, enfin, des grosses maires. Il y a Anne Hidalgo qui est quand même maire.
Elle a besoin avec un pourcentage.
Mais elle veut revenir sur le devant de la scène.
Mais bon, alors, le Parti Socialiste, de toute façon, tout le monde sait que c'est Parti Communiste, Parti Socialiste, c'est terminé.
Enfin, tout leur étolier.
Voilà, maintenant, c'est tout la France Insoumise. Mais bon, ils auront du mal à récupérer. Parce que les gens ne sont pas non plus dupes de leurs appels.
Le PC, on ne peut pas attenter une mission de justice au nom de l'égalité des salariés. Parce qu'il y a plein de salariés qui vont faire grève, qui vont perdre leur journée ou leur demi-journée de travail, d'autres qui vont poser des RTT, etc. Mais là, ceux-là, on leur donne gratis.
Tout à fait. Là, mais encore, c'est illégal.
Maître.
Non, mais c'est pas. Non, en fait, c'est pas un problème. À partir du moment où une municipalité ou une entreprise privée, te dit de ne pas aller travailler parce que c'est fermé, bah dans ce cas-là, elle est obligée de te payer. Je vois pas en quoi, en fin de compte.
À quel titre elle est fermée? Elle est pas fermée parce qu'il y a des congés, elle est pas fermée parce qu'il y a une inondation.
Oui, non, mais peu importe. Elle laisse la possibilité, en fait, aux salariés.
Ah non, elle laisse pas.
Là, aux agents d'aller manifester.
On leur laisse pas la possibilité, là.
Avec l'argent public. Moi, je demande.
Avec l'argent public.
Si,
non. C'est ça qui. Non, mais c'est ça, éthiquement, déontologiquement, franchement, c'est.
Ça pose un souci.
Ouais, ça pose un souci. Il n'a pas tort. L'argent public. Maître.
Pour faire une grève, il faut un préavis de grève.
L'argent public, maître.
Bien sûr.
Il l'a dit, Bruno Pomard.
Il y a un préavis de grève même dans les mairies. C'est-à-dire que Madame Hidalgo, même si elle dit on va fermer les mairies, il y a deux formes de grève. Alors il y a la fermeture de la mairie par solidarité parce que les maires fermeraient leur mairie, mais il y a aussi la fermeture suite à une grève qui fait suite à un préavis de grève.
Oui. Alors
est-ce qu'il y a des préavis de grève? Alors on lance la pub, messieurs, on lance la pub. 18h53. Je lance la pub. Elle est très courte. Je lance la pub et on se retrouve tout de suite après, chers amis auditeurs. Le débat est tellement passionnant qu'on vient parler parce qu'il y a encore la grève de mardi prochain. On va parler aussi de l'immigration qui est en hausse. À qui profite tout cela, l'économie, qui donc. Et on parlera de la guerre en Ukraine parce que avec l'envoi des chars, certains se posent la question. Je vous dis, chers amis, certains se posent la question d'une troisième guerre mondiale. Ouais, à tout de suite.
Pas, oui.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et ça prend toujours forme, 18h56, précisément avec Philippe Nadjiboyaki, avec Bruno Pomard, Maître David Lemeskid et enfin notre représentant CGT, Jimmy Dalidou. Un petit tour de table encore pour parler évidemment de ces fermetures symboliques des mairies. Et je voudrais qu'on parle des grèves, parce que c'est important, mardi prochain, on parle d'un blocage. Beaucoup appellent justement à paralyser le pays. Est-ce aussi responsable? Qui veut prendre la parole?
Moi.
Oui, c'est Philippe Djibouti.
Moi, ce que je dis à celles et ceux qui veulent bloquer le pays, donc ils vont freiner l'économie.
Donc là, on parle de la réforme des retraites.
Moi, je vais encore perdre une journée. Tu sais que j'ai un gros contrat que j'ai été obligé d'annuler mardi parce que j'ai pas d'autre alternative que de m'occuper de mes enfants. Sauf que ça me coûte une blinde, moi. Ça me coûte une blinde. Il y a des élections. Allez voter dans 5 ans.
Oui, t'as raison.
Laissez passer cette réforme. Dans 5 ans,
je voudrais que ça s'installe. Allez-y, parlez-en.
Deux choses.
Il va vous répondre le représentant CGT.
Non, deux choses. Alors la première, c'est qu'effectivement la grève, on l'a dit tout à l'heure, on sera en contradiction par rapport à ce qu'on disait sur le fait d'un côté, il y a une grève, elle est légitime.
Vous voulez faire des actions Robin des Bois.
Effectivement, elle est liée aux luttes des classes c'est un droit qui a été arraché par les luttes. Bon, ça, c'est important de la maintenir. Parce que s'il n'y a plus le droit de grève, beaucoup de salariés pourront plus se défendre. Mais moi, je voudrais faire un appel à tous mes camarades syndicalistes. Vas-y. Je voudrais faire un appel.
Il va vous clasher, Philippe Nadjiboyaki. Attention, hein.
Je pense qu'il faut j'appelle à la responsabilité des camarades syndicalistes et qui sont rationnels et qui ont compris qu'en fait, on évolue dans un monde qui bouge et qui change. Et je crois qu'effectivement, à un moment, on doit se poser la question, nous, syndicalistes. Alors, je parle bien aux syndicalistes de conviction, pas aux syndicalistes opportunistes.
Ah, il y a plusieurs catégories.
Oui, effectivement, ça existe aussi. Comme les politiciens, ça existe partout, vous savez bien.
Ouais,
bref, je voudrais leur demander qu'on réfléchisse collectivement entre les syndicalistes et les travailleurs et qu'on réfléchisse à de nouveaux moyens de lutte. Moi, par exemple, dans les transports, je suis plutôt pour la grève de la gratuité dans les transports.
Non, très bien, pour la gratuité.
Ça, c'est des éléments importants.
Non, mais
il faut qu'on en discute. Mais laissez-moi finir. Il faut qu'on en discute. Attention, parce que l'objectif, c'est pas non plus d'envoyer le peuple travailleur au casse-pipe. Mais il faut qu'on.
J'aime bien quand tu dis le peuple travailleur.
Il faut trouver
le peuple travailleur.
Parce que plus on va aller dans le temps, plus on va utiliser les mêmes moyens de lutte et de blocage. et plus on sera pas compris par une partie du peuple.
Philippe Nadjiboyaki. Et je fais un tour de table. Philippe Nadjiboyaki qui est vénère. Il est vénère ce soir.
Alors je crois que les syndicalistes de conviction, notamment les syndicalistes de lutte des classes comme moi, on doit prendre nos responsabilités pour pas aggraver la contradiction.
Ouais, sauf que Jimmy Dalidou, tout le monde appelle au blocage, paralyser le pays, etc. Non, mais c'est vrai, c'est responsable.
Par exemple, les grévistes d'EDF.
Philippe Nadjiboyaki, on fait un tour de table.
Ils essaieraient de court-circuiter les circuits de factures et que toutes les factures soient à zéro, par exemple. Ça fera plus chier l'entreprise que
un jour à des rappels.
Hein? Non, mais il n'y aura pas de rappel si tu mets tout un reset, etc. Enfin, voilà des actions bien concrètes. C'est-à-dire qu'on augmente la puissance de ceux qui n'avaient pas beaucoup de puissance parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de sous, etc. Enfin, tu vois, il y a des actions où, qui font plaisir au peuple et tu as le soutien du peuple et qui emmerde le patron. Maintenant, celles et ceux qui ne sont pas contents, bah, pourquoi vous ne démissionnez pas et que vous créez une coopérative à côté, vous faites concurrence à votre propre boîte? Tu vois, le truc, il est là. C'est, franchement, ces trucs-là, ils sont pénalisants.
Mais pour ça, il faut de l'argent.
Bruno Pomard, on fait un tour de table, s'il vous plaît.
Ils sont en galère, ils n'ont plus de thunes.
Ils n'ont plus de thunes. Ils n'ont plus de thunes, c'est vrai, ils n'ont plus de thunes.
Parler du blocage, et là, j'adhère totalement à ce que vient de dire Jimmy, pourtant, on n'est pas souvent d'accord. C'est de dire effectivement le coût de la gratuité, je l'ai dit plusieurs fois aussi. Je trouve que c'est intéressant de dire, c'est-à-dire tu peux montrer ta désapprobation du gouvernement et le truc, et en même temps ne pas emmerder, parce qu'il y a plein de gens, comme les écolos qui foutent sur le périph', qui bloquent les bagnoles, des mecs qui vont travailler. Ah ouais. Ça, c'est pas intelligent.
Sauf que mardi prochain, c'est ce qu'ils préparent.
Des bagnoles. Non, mais c'est lâche.
Ah si, action Robin des Bois.
Mais ils iront en car faire grève.
Comme les mecs qui te dégonflent les pneus, tu vois, pour montrer qu'on est contre les 4x4 parce que ça pollue. Et c'est complètement con et c'est contre-productif. Et il a raison de dire, Jimmy, que la nouvelle forme de syndicalisme devrait passer par ce genre d'action. C'est-à-dire la gratuité des transports. Et pas tout bloquer, parce que bloquer le pays, ça veut dire des manifestations énormes. Et moi, je pense toujours sécurité. On a vu la dernière qui s'est bien passée parce que les services d'ordre de la préfecture de police a bien bossé là-dessus.
Bravo, respect au préfet, au tout nouveau préfet. Respect.
Les services d'ordre des syndicats aussi ont bien bossé. C'est tout un ensemble. C'est pour ça que ça réussit. C'était très intéressant. J'y suis allé dire,
Bruno, tu sais bien que les manifs, il faut pas interdire les manifs. Les manifs,
c'est
sérieux.
Il faut que ça soit organisé. Quand il y a eu les gilets jaunes, vous le savez tous, les syndicats ont été complètement dépassés. Les services d'ordre, on ne savait pas où tu es. C'est parti en sucette. Qui on a retrouvé
parce qu'au début, les gilets jaunes, c'est bien que c'était pacifique.
Oui, mais c'est trouvé totalement dénué.
Vous avez un avocat des gilets jaunes, là. Il est là. L'avocat des gilets jaunes, maître David Libeskind.
Non, mais je pense qu'il faut un blocage total du pays. Là-dessus, alors, vous en plaignez, Philippe, tu t'en plains parce que tu vas perdre un contrat. Mais moi, c'est pareil, j'ai peut-être loupé une audience. Le principe du blocage des secteurs d'économie, c'est pour avoir gain de cause. C'est le principe. Je vois pas l'intérêt, en fait, de faire une petite manifestation et après de rentrer chez soi. Je veux dire, bon, il y avait quand même 2,5 millions de personnes dans la rue. Donc, il y a un gros problème.
Selon les organisateurs, il y a 1 million selon la police.
Tu exagères un peu, quand même.
Ah bon, tu crois les chiffres de la préfecture de police quand ils te disent 1,5 million. Qui est rattaché au ministère de l'Intérieur.
C'est bien fait, c'est pas juste le mec.
Ils ont un drone, ils ont l'hélicoptère,
Ils
sous-évaluent. Les syndicats veulent pas le comprendre, c'est normal.
Non, c'est bien connu, ils sous-évaluent souvent les chiffres, comme les syndicalistes surévaluent les chiffres. Donc on est entre les
deux. On vous mettra pas d'accord de toute façon.
Oui, mais je pense en fin de compte le gouvernement ne veut pas tendre la main, ne veut pas engager en fait un dialogue social parce qu'il considère Monsieur Macron considère qu'il a été élu pour 5 ans, donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Alors que bon, si on lit quand même je vais pas faire un cours de droit, mais bon, la Constitution ne dit pas ça. La souveraineté quand même appartient aussi au peuple. Il pourrait faire un référendum. Pourquoi ne fait-il pas un référendum? Il y a l'extrême droite qui réclame un référendum. Il y a la gauche qui réclame un référendum. Et il veut pas faire un référendum. Donc, moi, je pense que c'est quoi la solution? La solution, c'est de bloquer le pays, c'est de bloquer les secteurs de l'économie du pays, parce qu'il y a que ça, en fait, qui fait mal.
Ça coûte quand même à la France chaque fois qu'il y a une journée de grève.
C'est un droit constitutionnel.
C'est par centaines de millions,
c'est un droit constitutionnel.
Milliards, on parle de milliards, là.
L'exportation des profits dans les paradis fiscaux, ça coûte pas cher.
Faut cesser les petits égoïsmes.
Les 200 milliards planqués dans les paradis fiscaux, ça coûte pas cher.
Faut cesser les égoïsmes individualistes. Moi-même, je prends le métro, donc je suis aussi impacté par les grèves. J'ai pas le permis, j'ai pas de véhicule, je suis très bien comme ça. Donc, faut voir l'intérêt commun, faut voir le bien commun. Faut pas se dire, oui, mais ça, j'aime, je vais aller travailler, etc. C'est comme ça, quoi. En France, toutes les avancées sociales ont eu lieu comme ça. Donc, pour éviter que cette avancée ait lieu dans la violence,
je fais tourner la parole, s'il vous plaît, avant de donner la parole à Jimmy Dalidou, pour répondre à Bruno Pomard. Bruno Pomard, je vous donne un chiffre. Simplement, un jour de grève nationale et générale représente un coût proche de 2 milliards d'euros. Voilà.
Brasserie, de toute manière. Mais pas grave, on marche par milliards dans ce pays, donc c'est pas grave.
Ouais, alors
deux choses.
C'est énorme. La première concernant les
c'est énorme, bien sûr que c'est énorme.
Il ne faut pas oublier une chose, c'est que on a parlé de 2 millions de personnes dans la rue, effectivement, il y avait un peu près 2 millions de personnes.
Et le gouvernement, il y a quelques années, pardonnez-moi Jimmy Dalidou, il y a quelques années, le gouvernement, il avait évoqué. Voilà, entre 300 et 500 millions d'euros pour une journée de grève. Ouais, voilà.
C'est terrible.
Oui, enfin, c'est le
gouvernement. Voilà. Ouais, alors, 2 millions de personnes, mais il faut prendre. Il y a deux paramètres à prendre en considération. Le premier, c'est ce qu'on appelle la neutralité bienveillante. C'est-à-dire, même si tout le monde n'était pas dans la rue,
ils étaient
en soutien de la manifestation. Oui, première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans le privé, il ne faut pas oublier que dans ce pays, dans le privé, notamment dans les PME, les salariés qui sont syndiqués sont virés, licenciés.
Mais non, non,
clochette. Mais on peut pas virer comme ça du jour au lendemain. Arrêtez, s'il vous plaît, Jimmy Dalidou.
Quand t'es syndiqué dans les petites entreprises, tu es viré.
Mais comment ça, on virait? Mais c'est, il l'a rappelé, maître David Lebesgue. Il y a quand même des règles et des.
Oui, mais les employés.
Face à un salarié qui est.
On vire pas comme ça les gens.
Réprime son salarié. Ça, c'est une réalité. Et je reviendrai sur les chiffres parce que Bruno, tu dis oui, les grèves, elles coûtent cher. Moi, je vous rappellerai quand même que les multinationales.
Vous l'avez énervé, là.
En 3 ans, les multinationales se sont jamais autant enrichi. Louis Vuitton, il a jamais autant vendu de sacs de luxe.
Ouais.
Les bourgeois Monopolis, ils ont jamais autant acheté de sacs de luxe.
Ah là 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 là. Il y a
200 milliards planqués dans les paradis fiscaux.
Je te rappelle qu'il y a 200 milliards dans les paradis fiscaux.
Alors les 200 milliards. Les 2 milliards qui coûtent un blocage du pays, c'est rien. Allez chercher le fric là où il est.
Jimmy, je te rappelle qu'il y a 500 milliardaires qui ont perdu.
Le peuple travailleur en colère.
1900 milliards. Aussi,
sauf que vous manquez de dire que c'est Louis Vuitton, c'est sous ses L'Oréal, etc. pour en citer deux sans faire de pub, eh bien, il faut travailler des millions de Français. Voilà, chers amis. Et dans tous les corps de métier.
Ce qui me fait sourire, ce que disent.
Eh oui, c'est l'économie française, ça. Arrêtez.
Ce qui me fait sourire, ce que disent nos camarades. C'est gentil, mais c'est tous les services publics qui sont en grève. Voilà. Moi, le plombier de chez moi, le carreleur.
Il est pas en grève, oui.
Le mec, il bosse.
Mais même les salariés dans le secteur de
l'économie. S'il avait les possibilités de
Parce qu'il peut pas.
Le plombier, c'est parce qu'il peut pas. Il a pas les possibilités de poser un préavis de grève et de se mettre en grève.
Parce que
s'il arrête de travailler, il est viré. C'est ce que j'étais en train de te dire.
Nous, c'est la nation.
Sinon, le plombier, il serait en grève.
Non, Maître vrai. David.
Et ça fait belle lurette que les hôpitaux seraient fermés, en plus.
Maître David Lebesgue.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un gros problème en France parce que quand il y a des manifestations de la sorte, comme tu dis, en fait, Bruno, c'est quoi? C'est les enseignants, c'est les fonctionnaires, etc. Et on voit très peu de personnes dans le secteur privé parce qu'elles ont peur de faire grève. Elles ont peur de représailles de leur employeur. Et ça, moi, avant d'être avocat, j'ai travaillé en RH. Donc, je sais exactement comment se passe, en fait, le droit à grève dans le secteur privé. Et donc, ça, c'est une vraie difficulté parce que on a parlé de 2 millions ou 1 million et demi, peu importe, mais ces personnes ne sont pas représentatives de la population française. C'est des gens, comme j'ai dit, qui travaillent dans le secteur public, qui ont cette possibilité de faire grève sans représailles, ou quand c'est des entreprises du secteur privé, c'est des grosses entreprises anciennement nationalisées qui sont très syndicalisées, et les salariés, là, peuvent permettre de faire grève. Mais en tout cas, moi, je suis de toute façon pour le blocage, puisqu'il n'y a que comme
ça... Vous êtes pour le blocage,
vous ? Mais oui, il n'y a que comme ça que le gouvernement pourrait comprendre les choses. À la base, je suis pour le dialogue social, mais il n'y a aucun dialogue social. Donc, à partir de là.
Il y en a des dialogues.
Des banquiers fanatiques bloquent nos vies. Alors, bloquons le pays.
Mais non,
bloquons nos vies, bloquons le pays.
Combien il y a de syndiqués en France, si on part des années 60, même après l'après-guerre? Il y a 2 millions de gens syndiqués. On est 70 millions d'habitants.
Oui.
30 et quelques millions de gens actifs. 2 millions de mecs syndiqués. Et des syndicats qui sont en perte de vitesse totale qui bloquent un pays.
Excuse-moi, Bruno, pour répondre à ta question, pour répondre à ton observation.
Ça démontre que le peuple travailleur.
Effectivement, il y a un problème de représentativité des syndicats, comme il y a un problème de représentativité d'Emmanuel Macron, qui a été élu par 38% des électeurs inscrits.
Il a été élu.
Donc il peut pas faire ce qu'il veut.
Les autres avaient qu'à se déplacer à un moment donné. Ça va, quoi.
Oui, c'est vrai. Il a raison de le rappeler. Il a été élu.
Il a été élu pour qui? Mais tu sais bien pourquoi il y avait un taux d'abstention aussi élevé?
C'est parce que tous les candidats
étaient des candidats de la bourgeoisie
monopolisée. Par exemple, Anas Kazib. Pourquoi les gens n'ont pas mis la pression à leur maire pour soutenir la candidature d'Anas Kazib? Moi, je l'avais annoncé officiellement. Si je n'avais pas donné ma parole à Yannick Jadot, et je le regrette amèrement parce qu'il n'avait pas l'étoffe 2 et les épaules 2, je te jure. Malgré que je ne suis pas d'accord avec tout ce que proposait Anas Kazib, je l'aurais parrainé parce que ça aurait donné une candidature différente diverses que par rapport aux choix classiques et traditionnels qui nous sont proposés. Donc les gens qui, à un moment donné, qu'ils aillent voter, bordel, mais qu'ils aillent voter.
Mais alors vous savez, parmi les blocages, parce que Maître David Dubisquis, il en parlait, vous savez, il y a qui d'autre qui souhaite justement bloquer les lycées? Eh bien, c'est la jeunesse. Ils appellent à bloquer les lycées et à manifester contre cette réforme des retraites. Ils veulent des perturbations à la, voilà, à
les universités. Hein.
Et les universités. Tiens, parlons-en, Maître David Lemesquine.
Oui, tout à fait. Il y a, en ce moment-là, cette semaine, il y a eu beaucoup, j'ai eu beaucoup d'assemblées générales au sein des universités ou des écoles supérieures et au sein des lycées. Et, effectivement, la jeunesse s'y mêle. Alors, va se mêler au mouvement du 31 janvier à cette grève. Et donc, faut un petit peu réfléchir. La jeunesse, en fait,
excusez-moi. Surtout.
Non, attends, laisse-moi parler. La jeunesse.
Tu vois Boyard qui passe ses journées à l'Élysée à dire, ils ont 20 ans, excuse-moi.
Non, mais Boyard ne représente pas la jeunesse. Un homme ne représente pas la jeunesse. Explique-moi pourquoi tous les syndicats lycéens, les syndicats d'étudiants, en fait, appellent à manifester le 31 juillet ou à peine à bloquer les universités et les lycées.
Parce que c'est les croix de transmission des partis.
Non, mais non.
Tous les jeunes sont manipulés maintenant.
Donc, vous êtes en train de nous dire que la jeunesse. La jeunesse est influencée, manipulée et complètement politisée.
Donc les jeunes ne sont pas.
Attendez, s'il vous plaît. La jeunesse est politisée.
C'est ce que vous
êtes. Attendez, à tour de rôle. Philippe Nadji. Sinon, on ne s'entend pas.
Comment ça se passe? Les syndicats lycéens, les étudiants, c'est très bien commencé. Derrière, t'as le PC, t'as le PS,
LFI.
T'as le NPA avec. Écoute, j'ai soutenu les minots de l'UNEF tacle à Nanterre pour qu'ils soient tous inscrits. Je continuerai encore à les soutenir, même si
non,
je
pense la parole. Ils sont tous.
Écoutez-vous, s'il vous plaît.
Tous les délégués, les responsables de syndicats d'étudiants, ils sont tous affiliés à un parti politique.
Non.
Et
gauche et extrême gauche, bien sûr.
Rappelle-toi,
c'était la guerre interne. Après, il n'y a pas de problème.
Un très beau film là-dessus, d'ailleurs, c'est Baron Noir.
Oui, Baron Noir.
Qui explique comment le PS.
Les coulisses.
Voilà, tout à fait. Et c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que pour cela, ils n'ont pas de revendications légitimes. Au contraire. Et c'est bien qu'ils soient politisés, les jeunes, parce que c'est eux demain qui devront prendre les manettes du pays.
Ils finissent souvent par faire de la politique.
Et prendre les manettes politiques et le gouvernail. Ça, c'est un fait. Et puis après, t'as tous les autres qui sont pas très politisés, qui suivent leurs potes et qui sont dans un mouvement en disant et ça s'entend de dire à quelqu'un tu as 65 ans, 67 ans voire 68 en vérité, parce que quand on regarde bien pour avoir le rentrée plein, bien sûr que ça peut rendre fou, et y compris un minot. Rappelle-toi mai 68, il y a eu le mouvement ouvrier, c'est une fois qu'il y a eu la jeunesse dans la rue que tout a été
Baron Noir avec Cadmérade.
Avec Cadmérade.
Et notamment réalisé par Zia Doueri.
Et moi je dis, il y a des élections en 2027, il y aura des élections en 2026, il y aura des élections européennes en 2024.
Alors, on fait un tour de table. Bruno Pomard, ensuite Maître David Lemesquis et Jimmy Deligeau. On peut ne pas être d'accord. On en parle.
Je partage avec ce qui vient d'être dit, et évidemment qu'il y a une manipulation des jeunes. Vous vous rendez compte, moi, rien que le symbole. Quand j'écoutais sur les chaînes de télé, etc., les mecs qui intervenaient, il y en a un qui est première année de Sorbonne. D'ailleurs, il ne sait même pas compter, le mec. Il nous parle 4 fois 4 heures, ça fait 20 heures par semaine, bon, déjà. Le mec, il t'explique qu'il ne veut pas travailler au-delà de. Enfin, au moins jusqu'à 64 ans. Tu entends, le mec, il n'a déjà pas payé d'impôts encore. Il n'a pas bossé. Il est encore en train de faire les études, le mec, et il pense déjà. Non mais on peut rêver. Non mais c'est un scandale.
Ah, vas-y, fini. Je vais
scandale. Maître David Dubisquis.
Il y a tout un tas de mecs qui ont manipulé. Boyard est parti. Tu lui as parlé.
Non, député,
il a jamais travaillé de sa vie. Il nous explique. Ouais, il faut manifester. Et les retraites, pour nous, c'est important. Et les retraites, dans 40 ans, il n'y en aura sûrement plus déjà.
Ouais.
Non, bah.
Alors, Maître David.
C'est ça, aberrant.
Maître Dubisquis.
En fait, attends, les jeunes ont le droit de rien faire, mais ils voient quand même pas leurs parents s'user au travail. Donc, ils imaginent mal leurs parents, en fait, travailler jusqu'à 64 ans. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, moi, je connais mieux que vous, les jeunes. J'ai enseigné à la fac 7 ans, de 2012 à 2020, et je peux vous assurer que les syndicats ne sont plus ce qu'étaient les syndicats dans les années 80. Non, mais je t'ai pas interrompu.
L'idéologie, bien sûr.
Non, mais arrêtez, laissez-moi parler.
Pas les syndicats, l'idéologie.
Non, mais
laissez-le. Il veut juste vous dire, bien sûr.
Voilà. Philippe, en fait, faisait référence, je pense, à l'UNEF, au syndicat UNEF, en fait, qui permettait de former les cadres du Parti Socialiste, dans les futurs cadres du Parti Socialiste dans les années 80. Maintenant, dans les facultés, en fait, il y a quand même une grande dépolitisation. On t'a cité Nanterre, mais Nanterre, on connaît, c'est Nanterre-la-Rouge. c'est Nanterre, le mai 68, il y a encore cette culture Nanterre de gauche ou d'extrême gauche. Mais en tout cas, c'est bien que la jeunesse se mobilise. Si elle est politisée aujourd'hui, c'est plus du côté de l'écologie, tu le sais, hein, parce que oui. Quand les grandes manifestations où sont les jeunes, c'est les manifestations pour l'écologie, notamment l'écologie radicale, hein, souvent.
Et on les a vus il y a quelques mois.
Et donc, voilà, faut arrêter. Les jeunes, en fait, se préoccupent aussi de l'avenir de leurs parents. Évidemment, leur avenir pour la retraite, il est très, très lointain. Mais en fait, voilà, il n'y a pas de politisation des jeunes. Et en fait, les jeunes sont de plus en plus mûrs, sont de plus en plus lucides. Ils rejettent, et ça, c'est vrai, ils rejettent ce capitalisme, sans forcément se couvrir d'une idéologie politique. Ils rejettent ce système, ils sont un petit peu anti-système, donc c'est bien qu'ils puissent s'exprimer à l'occasion.
Ils partent en vacances, ils fument du tabac roulé,
tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait dans ta jeunesse.
Bien sûr, bien sûr.
Alors,
ah non, moi je parlais des Nike, les Nike troués de mes frères, parce que nous on n'avait vraiment pas de lové, tu vois.
Bon, t'avais des Nike.
Ah, deux choses. Pour répondre à Bruno Pomard, déjà la plupart des jeunes ils travaillent parce que la journée ils font des études et le soir ils vont travailler au McDo.
Ouais.
Donc quand tu fais des études la journée, ouais, McDo ou ailleurs,
c'est bien.
Et quand t'as une journée de merde comme ça, tu te dis, déjà je me fais chier pour payer mes études au McDo. Alors si en plus je dois travailler jusqu'à 64 ans, c'est pas terrible, terrible. Donc ensuite,
ça c'est pas propre à aujourd'hui.
Et aujourd'hui,
quand j'étais gamin, pour payer mes études, j'ai fait le marché, j'ai fait le McDo, j'ai tout fait, qu'est-ce que vous me racontez? Et on était nombreux.
Mais
j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans.
Tout le monde doit faire la même chose. Alors que dans le même temps, ils sont en train de.
Ma génération à moi, tout le monde bossait pour payer ses études.
Tout le monde.
La première génération.
À la fac.
Tout le monde.
Moi, dans une classe de télé, t'avais que deux, trois personnes.
À la fin qu'on avait une bourse.
Non, il y avait que deux, trois personnes qui. Moi, j'ai travaillé pendant mes sept années d'études.
La première chose, c'est sur les. C'est pas parce que vous avez travaillé, vous êtes fait exploiter un max et que vous avez galéré, que tous les jeunes doivent galérer. Vous voyez, ça, c'est une vision assez limitée de la situation. Et la deuxième chose, c'est que quand t'es jeune, t'as aussi une réflexion. Philippe, tu dis, ils sont manipulés. Toi aussi, tu dis, ils sont manipulés. Moi, quand j'étais dirigeant. On a été à l'université à Saint-Denis, on a discuté avec eux. Faut pas confondre manipulation et réflexion, conscientisation. T'as pas d'âge pour être conscientisé. Tu peux être 18 ans, être conscientisé. Avoir 60 ans, être conscientisé. Messieurs, un débat, il n'a pas de limite. Un débat peut avoir lieu dans un lycée. Un débat peut avoir lieu dans un collège. Et peut avoir lieu dans une université. Alors, vous avez une vision limitée de la France. C'est ça votre problème.
Alors, j'ai une proposition à te faire. Qui, premièrement, que l'écologie au centre propose, qui redonnera du pouvoir d'achat en faisant passer les cotisations de 28% à 22%. Ça fait 1 750 € net par an qu'on va redonner à chaque salarié. Mais par contre, ce que nous demandons, c'est 2/3 de cotisation par répartition et 1/3 par capitalisation. Et là, je vais dire un mot ultra violent pour la gauche.
C'est une petite mesurette que tu proposes.
Non, mais pas du tout. Regarde les Danois.
Comme tous les partis politiques, c'est de la mesurette.
C'est pas la mesurette. Je te donne l'exemple danois, par exemple, qui fait en sorte que la capitalisation... On parle de fonds de pension, mais moi je parle de fonds de pension souverains français ou européens et pas américains, permet un taux de rendement de 8% par an, ce qui permet que les Danois, quand ils partent à la retraite, touchent le même salaire.
Je lance la pub. Pas. Chers amis auditeurs,
qu'est-ce qu'on pense?
Si vous venez de nous retrouver, il va vous dire ce qu'il en pense. Ouais, on lance la pub et on se retrouve juste après. Ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Dernière ligne droite, chers amis auditeurs. 19h21. Les informés, c'est avec nos débattants influenceurs, Maître David Libeskind, avec Jimmy Dalidou, mais également avec Philippe Ndiboyeki et enfin avec Bruno Pomard.
Les informés. Le face-à-face.
Oui, le face-à-face. On va parler, de l'immigration. Parce que, vous savez, c'est un sujet aussi qui concerne notre quotidien. Et puis, l'immigration, elle est en hausse en France. Bon, ça, je vous l'apprends pas. Plus de 320 000 premiers titres de séjour ont été délivrés en 2022. Alors, cette immigration, aujourd'hui, est-ce qu'elle contribue justement à notre économie? L'économie, donc, il y a vrai besoin aujourd'hui ou pas du tout? Maître David Libeskind. Un sujet, évidemment, qui est récupéré par l'extrême droite.
Si ceux qui nous écoutent, qu'effectivement, le chiffre, il est un peu dans l'ordre d'un record, je crois.
Exact.
C'est parce qu'il y a eu, en fait, des années Covid. Donc, forcément, il y a eu moins d'immigration pendant les années Covid, pendant un an ou deux ans. Après, bon, il y a des secteurs de l'économie en France qui sont en crise. Ça, je crois que tout le monde le sait sur ce plateau.
La restauration.
Il y a la brasserie, notamment.
Les hôtels.
Peut-être le ménage, je sais pas.
Oui.
Philippe, sans doute, en parlera.
Le bâtiment,
etc. Donc après, non, moi, ça me... On a besoin de main-d'œuvre, donc autant accueillir, en fait, les... Voilà, des personnes qui viennent.
Parce qu'on est en plein débat au QTF, c'est pour ça que je vous pose la question.
Avec des conditions. Parce que quand tu dis ça, t'as l'impression que tout est ouvert.
Oui, non. En fait, il y a une liste, tu le sais toi-même, il y a une liste, en fait, qui est éditée, je crois, par le ministère de l'Intérieur, ou une circulaire. Oui. Avec tous les métiers en tension. Et je peux t'assurer, parce que moi, j'ai fait beaucoup de droit des étrangers quand j'ai commencé mon job d'avocat. Je peux t'assurer que bon, si tu rentres pas dans les cases, la préfecture en fait refuse le titre de séjour. Après, tu parles des OQTF, mais ça c'est un autre problème. C'est vrai que c'est un fléau.
Ou l'immigration clandestine. Voilà.
Mais c'est un fléau d'ailleurs que ce soit en France, mais c'est aussi un fléau au niveau de l'Europe.
Bien sûr.
Mais ça c'est un autre sujet quoi. Là en fait, on est dans le sujet. Est-ce qu'on doit accueillir les étrangers parce qu'on a des métiers sous tension que ne veulent pas en fait les Français. D'accord. Pourquoi ils ne le veulent pas? Parce que dans les brasseries, c'est des conditions de travail difficiles. On travaille la nuit. Très peu de Français veulent être plongeurs. Hein. Je parle pas seulement des serveurs. Hein. C'est pour être plongeur, pour laver la vaisselle, etc. Donc faut les accueillir. C'est normal. La France a toujours été un pays d'immigration et voilà quoi. Faut laisser la chance en fait aux étrangers qui vivent dans un pays en fait qui ne les satisfait pas parce qu'ils peuvent pas vivre économiquement normalement quoi.
Jimmy Dalidou.
Voilà, je vous dirais tout simplement que l'impérialisme français exploite les peuples depuis des décennies. Donc c'est un peu normal qu'on les accueille et puis qu'on leur fasse un peu de place quand même. Mmh. Je vous rappellerai que l'impérialisme français, ça, je ne veux pas revenir sur les différences.
Vous lâchez pas l'affaire.
La colonisation, il va venir la colonisation.
Non, mais c'est vrai.
Rwanda, etc. Alors c'est quand même incroyable, ça fait des décennies qu'on est là-bas. Qu'on exploite la force de travail africaine pour faire tout, pour augmenter le surprofit. Et puis, dès qu'ils veulent venir ici pour avoir un meilleur avenir, on leur tape dessus.
Un meilleur avenir ici.
Responsable et rationnel. Deuxième chose, moi, vous savez, j'ai grandi dans la cité des 3000, Nesoubois, et dans la cité du Clos Saint-Lazare, Astin. Moi, ma France, c'est la France cosmopolitanie. Pour moi, la France, c'est la cosmopolitanie. C'est la France black blamber. C'est-à-dire que moi, j'allais au quatrième étage, j'allais chez mon pote Ali, je mangeais un couscous, je descendais au premier étage, je mangeais un mafé, je descendais chez moi, j'en mangeais une roue.
Je mangeais 1980.
C'est comme ça que j'ai grandi. C'est comme ça qu'elle est ma France. Maintenant, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, elle est comme ça. Maman dit, est-ce qu'on doit les accueillir? Je vous rappellerai quand même, messieurs, que là, il y a les JO 2025.
Vous l'avez rien fait.
Oui, mais il a raison de dire.
N'importe quoi, Philippe.
Eh oui, non, mais il a raison. Mais oui, il a raison.
Non, mais attendez. Le jambon, Philippe, tu tires à le manger, toi, le jambon, Philippe.
Mais il a raison. Non, mais il a raison. Non, mais
qu'est-ce qu'il veut?
Mais t'as raison. T'as raison. Parce qu'il mange le couscous, une espèce de caricature qui est.
Non, mais écoutez, on parle des.
Ah, Philippe Nadji,
bois et qui. Attendez, là, il y a des chantiers pour les JO 2024, par exemple. Sur ces chantiers, une bonne partie de la force de travail exploitée, les salariés, sont des personnes qui sont sans papier.
Sans papier, c'est vrai.
Ils n'ont pas de papier.
Mais ils sont montés au créneau, là, récemment. Ils sont montés au créneau.
Il y a plusieurs articles.
Pour dénoncer un certain nombre de choses.
Et ça, c'est une situation inadmissible. Donc, la question qui se pose, c'est pas de savoir est-ce qu'on doit les accueillir, est-ce qu'on ne doit pas les accueillir. David l'a dit, je suis d'accord. La France, elle est comme ça. La France black bomber, c'est comme ça, c'est sa richesse. Et la deuxième chose, il faut se pencher sur ces personnes qui sont exploitées sur les chantiers et ailleurs, qui n'ont pas de papier. Et en plus de ça, on leur fait payer des impôts. C'est-à-dire, ils travaillent, ils payent des impôts et ils sont exploités.
Ils n'ont aucun papier, c'est inadmissible. Quand tu es sans papier, tu ne peux pas travailler légalement, donc tu ne peux pas payer des impôts parce que ce n'est pas des revenus déclarés.
Non. Allez, Philippe Nadjiboy, qui ?
Alors, Philippe. Il y a une vraie question parce qu'il y a des métiers sous tension et tu l'as dit, merci David, et que personne n'a envie de faire parce que tu te casses le dos, tu te brises, tu n'arrives pas à la retraite, donc du coup, tu ne te poses même pas la question de la retraite à 65 ans. Et d'un autre côté, tu as 5 millions de chômeurs.
Oui.
Et donc là, en fin de compte, le Front National joue sur un truc très intelligent en disant il faut embaucher les gens qui sont au chômage et ne pas faire venir, sauf que même ceux qui sont au chômage ne veulent pas faire ces boulots-là.
Non, personne ne veut les faire.
C'est apporter des sacs de ciment.
Maître David Lévisky, il l'a rappelé.
Il n'y a personne qui veut le faire.
Les métiers dont, évidemment.
Être un ripper derrière un camion poubelle, personne ne veut le faire.
La restauration, personne ne veut le faire. L'hôtellerie, personne ne veut le faire. La cueillette, personne ne veut le faire.
C'est ça.
Les techniciens de surface.
Dans votre village. Mais ceux qui font la cueillette dans les villages. Personne ne veut le faire.
Ils viennent du Portugal, ils viennent du Maroc, etc.
Voilà, exactement.
Mais moi, le premier, je veux te dire. Quand j'étais jeune, tu me disais d'aller faire les vignes et compagnie. Quoi. Je te fais 16 ans pendant 3 jours, après je ne pouvais plus arquer. Ça, il y a très longtemps. Ça a toujours été le cas, effectivement.
Exactement.
Là, je pense que sur l'accueil des émigrés économiques en particulier.
Je vous redonne la parole.
Pardon, oui, excusez-moi.
Il n'a pas fini. Hein. Il n'a pas fini.
Pas de souci, pas de souci.
Bon, je te laisse la parole. Les immigrés, comme on dit, effectivement, on en a besoin, mais il faut que ça soit fait dans un cadre, tout simplement. Je veux dire, il faut que ça soit cadré. Éviter, justement, les risques que nous avons d'une immigration qu'on ne veut pas. Il y a une immigration qu'on ne veut pas, c'est-à-dire ceux qui risquent pour notre sécurité. Il ne faut pas le nier, ça.
Ah non, mais on ne peut pas lier, en fait, l'immigration.
Maître David.
Mais non, je ne t'ai pas dit ça. Je n'ai pas pris le raccourci.
Mais tu parles de sécurité. Il faut être sécurité.
Mais les gens qu'on fait venir, il faut tout simplement qu'ils soient répertoriés, qu'on sache qui est qui fait quoi. Non, mais c'est
dès lors qu'ils ont un titre de séjour, ils sont répertoriés.
C'est du bon sens parce que ça fait tort à cette immigration. Et le Rassemblement national le récupère en disant ouais, l'immigré économique, c'est un terroriste, en gros.
Non, mais tous les terroristes, c'est pratiquement.
Non, mais cette immigration qui est en hausse, elle est quand même bénéfique pour l'économie. Il y a des effets économiques.
Mais je l'ai dit, des effets économiques. Parce que les Français sont des feignants. Ben
non,
oui!
Pas forcément des feignants.
Mais t'as 5 millions de gens qui bossent pas. Tu l'as dit tout à l'heure, il faut arrêter de déconner.
Oui, mais.
Mais tout le monde ne peut pas être avocat, mon cher ami. Tout le monde peut.
Mais ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à voir avec.
Mais non, mais sur la difficulté du boulot. Mais non. À un moment donné, si on n'est pas capable de.
En fait, tu tiens le discours des années 80, ouais, ceux qui sont au chômage, ils ne veulent pas bosser.
Bah, écoute, en fait. La société, elle est faite de
la situation, elle est beaucoup plus complexe et je crois que tout le monde le sait. Il y en a qui cherchent du boulot, les seniors, par exemple. Les seniors, à partir de 45 ans, les grandes entreprises ne te veulent plus.
Regarde qui fait le ménage le matin dans les bureaux. Regarde qui fait le ménage le matin dans les bureaux.
Voilà. Oui.
Excusez-moi, mais.
Le problème, Bruno, c'est que.
Oui, mais parce que c'est mal payé.
Le problème, Bruno, c'est que tu fais.
Et c'est du temps partiel.
Il y a des gens qui bossent.
Le problème, Bruno.
Donc c'est quoi l'immigration? C'est un fardeau? C'est un fardeau?
Mais non.
Bah, c'est du temps partiel, le problème.
On en a besoin, encore une fois.
Cette dame qui fait le ménage 2h le matin ou 2h le soir, en fait, si son mari, si elle n'est pas mariée, si elle n'a pas un compagnon qui ne travaille pas, elle s'en sortira jamais.
Le problème, c'est cette corrélation qui est faite, comme tu l'as fait, hein, Bruno. C'est ce lien automatique entre immigration et sécurité. D'ailleurs, la sécurité, elle n'est pas liée à une origine ethnique ou quoi que ce soit.
Non, c'est pas ce que
elle est liée à une situation sociale.
Il n'a jamais dit ça.
C'est éviter qu'il y ait dans cette espèce de porosité qu'il y a, c'est de retrouver. J'ai pas dit que nos compatriotes immigrés qui viennent pour bosser sont des terroristes. J'ai pas dit ça.
Alors pourquoi tu parles de sécurité, c'est ça?
Mais parce que c'est important quand même de contrôler les gens qui viennent, quels qu'ils soient.
Non, mais le fait que tu en parles, c'est quand même
intéressant. Le souci, Bruno,
c'est du bon sens, en fait.
Non, c'est pas du bon sens. C'est là où je suis pas d'accord avec toi, parce que les seuls problèmes de terrorisme qu'on a eu, c'est avec des gens qui étaient ressortissants français. C'est
ouais,
pas avec
français,
des étrangers. L'étranger qui fuit la guerre.
Non, des mineurs isolés et compagnie, on a des cas.
Non, mais on
les répertorie. La prochaine fois, je te les arrive, tu vas voir.
Et on en a parlé ici.
Je te parle de terrorisme, c'est ce que tu as évoqué.
Ou les mineurs isolés.
Oui, mais des mineurs isolés qui sont entre les mains de bandes mafieuses qui servent d'eux pour faire
des délinquants.
Et parce que, oui, bien sûr.
Mais si on arrive au terme de cette émission, merci infiniment. Très, très bon débat. Riche, évidemment.
Déjà ?
Oui, déjà. Le temps file, hein. Bruno Pomard, au plaisir.
Merci, cher ami.
Philippe Nadjiboyeki, à très vite.
Moi, je milite pour que cette émission dure plus longtemps.
Bon, bah écoutez.
On fait le malif, ouais.
Conseiller régional, ancien membre du RAID, et président de la le père fondateur de la fondation RAID Aventure, plus que jamais. Maître David Lebeskid, avocat. Et enfin, le représentant CGT, mais également auteur, Jimmy Delisle.
Bisous à tous au 31.
Au 31, je le savais.
Je ne pouvais pas parce que je serais obligé de garder mes enfants.
À Anthony à la réalisation, Bilal Nenman, lui, il prend le contrôle de la machine de 20h à 21h. Ensuite, c'est Vanessa à 21h. Moi, je vous souhaite de passer un bon week-end, chers amis. Profitez-en bien, couvrez-vous parce qu'il va faire froid quand même, tout de même. Et puis surtout, à lundi, mais encore plus, qu'est-ce qu'on fait?
On ne lâche rien.
Ouais. Voilà, c'est dit.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.